Aujourd'hui, nous accueillons Daniel Buren dans le module qui s'appelle donc « Les hauts et les bas de la culture ». Et je vais dire quelques mots pour le présenter, même si vous êtes certainement très nombreux à le connaître et à connaître ses œuvres, mais c'est rituel. On donne ici toutes les informations les plus précises. Daniel Buren donc, est né en 1938 à Boulogne-Billancourt. Il vit et travaille in situ. En 1960, il est diplômé de l'École nationale supérieure des métiers d'art de Paris. Il décide alors que l'art n'est plus justifiable. Et en 1967, il est cofondateur d'un groupe d'artistes qui réunit Buren, Mosset, Parmentier et Thoroni. Et à eux tous, ils refusent l'illusionnisme pictural et adoptent une attitude polémique. Sa première exposition personnelle a lieu en 1968 à Milan. Ses œuvres sont largement présentées à l'étranger, en Europe et aux États-Unis. Il obtient en 1986 le Lion d'or à la Biennale de Venise et le Grand Prix international pour la peinture et la sculpture à Stuttgart en 1991. Il a des œuvres dans pratiquement tous les grands musées d'art moderne et contemporain en France et à l'étranger, et à Paris notamment, au Musée national d'art moderne du Centre Pompidou. Quelques mots sur son œuvre. Dès 1967, dans le cadre donc des actions du groupe que je vous ai signalé, Daniel Buren adopte à l'égard de ses compagnons une position radicale en se fixant sur un motif unique. Il va adopter la bande verticale de 8,7 cm de large en deux tons alternés, le blanc et une autre couleur, pour en répéter systématiquement le motif. Qu'il intervienne dans la rue pour des manifestations éphémères, en galerie ou dans l'espace muséal, Daniel Buren produit in situ une œuvre qui doit modifier notre perception sociologique et esthétique de l'espace. Depuis les années 80, il s'est vu attribuer quelques commandes monumentales en France et à l'étranger. Il a toujours répondu par des dispositifs ingénieux qui, fidèles aux propos de départ, n'en produisent pas moins une réflexion sur le volume. Pour les Parisiens, l'œuvre la plus remarquée et sûrement celle que vous connaissez est certainement « Les deux plateaux », plus couramment et médiatiquement appelé « Les colonnes de Buren », qui date de 1985-1986 et qui est situé dans la cour du Palais Royal à Paris. Pour les Lyonnais, c'est le nouvel aménagement de la place des Terreaux à Lyon, qui date de 1995. Mais à l'étranger, d'autres commandes publiques monumentales sont aussi visibles. Dans la baie de Tokyo, au Japon, une œuvre de 1995 qui s'intitule « Les 25 portiques ». Il est en train de terminer une pièce pour le ministère du Travail à Berlin, et notamment, c'est en Allemagne qu'on peut voir d'autres commandes publiques nombreuses, à Düsseldorf, à Munich, à Sarrebruck, à Bonn, également à Amsterdam, et il est en train aussi d'en terminer une pour le futur centre des télécommunications à Oslo. Il prépare une grande exposition au centre Pompidou pour 2002. Quelques éléments bibliographiques. Je signale tout d'abord une série d'entretiens avec Jérôme Sens qui sont publiés chez Flammarion et qui s'intitulent « Au sujet d'eux ». Puis, il a évidemment de très nombreux catalogues, et là, je n'en ferai pas la liste dans la mesure où vous pouvez les trouver dans les librairies de musées. Mais en revanche, je vais signaler deux choses importantes et tout à fait récentes, qui sont deux séries, une série chronologique, viennent d'entamer le catalogue raisonné, dont le premier tome est là, et qui est édité par les éditions 11, 28, 48, dont le premier tome vient de sortir, et qui présente la période de 1964 à 1966. Ensuite, les catalogues thématiques, dont là aussi, chez le même éditeur, vient de sortir sur l'œuvre qui s'appelle « Les cabanes éclatées ». J'ai aussi oublié de vous signaler les écrits de Daniel Buren, qui sont tout à fait passionnants, vraiment, et qui sont publiés par le CAPC de Bordeaux, et vraiment que là, je vous recommande pour vraiment comprendre à la fois toute sa réflexion. Un dernier mot, je viens de relire que le catalogue raisonné, dont voici le premier tome, comprendra 13 tomes, pire que l'Université de tous les savoirs. Voilà, je lui laisse la parole pour 50 minutes et ensuite vous pourrez lui poser quelques questions. Je vous remercie.
Merci bien. Je pense que pour, pour un artiste de parler de l'art en général et du sens de l'art en particulier est d'autant plus difficile que si toutefois il aborde ses problèmes, c'est avec son travail, qu'il soit peintre, qu'il soit sculpteur ou qu'il soit d'autres types de dénominations, et que, évidemment, je n'échappe pas à cette règle. Et je pense que pour connaître un tout petit peu mieux peut-être de quoi je parle de temps en temps ou de sur quoi ça s'appuie, je vais me permettre de vous présenter, non pas pris au hasard, mais quand même avec beaucoup de risques que certaines choses soient oubliées ou au contraire d'autres se répètent un tout petit peu, une série de diapositives qui vont survoler le travail depuis 35-30 ans. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut peut-être ensuite parler sur certaines choses plus générales ou plus théoriques que si je pars d'un seul coup de cette façon-là et qu'on ne sache même pas sur de quel espace ou de quel lieu je viens dire ce que je vais dire. Alors, je vais vous présenter ces photos. Si c'est ouvert. Très brièvement, parce que évidemment un travail, quel qu'il soit, ne tombe pas du ciel, je vous présente quelques diapositives de peinture faites en 1965 et où j'essayais d'une façon sans doute très volontariste et pas très, très adroite de faire une peinture qui soit extrêmement réduite, extrêmement simple, qui ne dirait que ce que la peinture devrait dire, c'est-à-dire son propre langage. Ces peintures sont faites sur des supports, généralement là des supports qui sont des draps de lit, parce que je travaillais dans les Caraïbes, et c'était le seul type de tissu assez grand que je trouvais. Et vous avez donc ce type de travail sur la droite de la photo, et à gauche de la photo, un travail qui n'est pas très loin de ça, sauf qu'il est fait, lui, sur un tissu déjà imprimé, comme des tissus de plage ou des tissus pour les matelas. D'autres pièces de la même époque. Et puis, dans la fin de 1965, j'avais trouvé, dans un voyage aller-retour fait à Paris, un tissu qui me semblait répondre de façon beaucoup plus intéressante à ce que, en fait, je cherchais avec des pinceaux, de la couleur, etc., qui est un tissu rayé, banal, de bandes égales, blanches et colorées. Et j'ai commencé les premières peintures, je pense qu'on peut appeler ça des peintures, des objets, sur ce tissu rayé. Alors ici, quelques installations de ces pièces qui ont été montrées toutes ensemble pour la toute première fois en janvier 2000, donc il y a très peu de temps, au musée de Villeneuve-d'Ascq, dans le nord de la France. Comme on a pu voir avant, il y a des formes un petit peu ondulées et un peu compliquées sur ces formats, qui petit à petit tentent à s'épurer, à s'éliminer, pour arriver aux pièces que l'on voit sur la partie gauche de la photo, ici et là, où l'intervention, je dirais, personnelle se réduit au recouvrement peint des deux bandes extrêmes colorées de ces tissus qui se présentent toujours sur des châssis de la même façon qu'une peinture, je dirais, tout à fait classique. Ici, on commence déjà à voir d'autres problèmes émerger. Où mettre ce genre de carré de tissu peint, partiellement peint, sur un mur? Et j'ai très vite décidé que le sol était sans doute la meilleure position pour garder cette espèce de contact humain et physique avec la hauteur de l'œuvre par rapport à une personne debout. Et puis ici, Le changement que vous n'apercevez peut-être pas si je ne le signale pas, c'est que la peinture blanche qui vient s'appliquer sur cette toile, aux deux extrémités gauche et droite, n'est plus sur la partie colorée, mais sur la partie blanche. Ce qui fait que, d'une certaine façon, là où c'est peint, est neutralisé presque à l'extrême, et le support sur lequel c'est peint est, sur sa partie colorée, en tout cas, complètement visible. Ce qui, avant, était une sorte de parenthèse, a disparu. Alors, dès qu'on arrive, je vais évidemment très vite, et j'ai du recul pour parler de ça, sur le moment, ce n'était pas évidemment tout à fait aussi linéaire et clair que ça. Lorsqu'on arrive à cette espèce de fabrication d'une peinture qui est à ce niveau que j'appelais à l'époque le niveau zéro, ou la neutralité ou l'impersonnalité la plus grande, pour moi, c'est posé un problème, c'est qu'est-ce que veut dire cette chose et est-ce que ce qu'elle dit n'est pas uniquement possible grâce au contexte dans lequel elle se trouve. Et j'ai commencé une série d'expériences, évidemment, pour briser ce contexte qui, jusqu'à ce moment, c'est-à-dire 67, était, disons, l'institution muséale ou la galerie, pour transporter la chose dans un contexte qui n'est plus aussi spécifique et qui se trouve être la rue. Donc toute une série de travaux où déjà là, je dirais, le côté peinture a disparu, le côté objet dans le sens d'un objet transportable disparaît aussi, et la seule chose qui est gardée et qui est complètement différente des pièces qui précèdent, c'est le signe qu'était ce drap ou cette toile à matelas, alternativement rayé, blanc et coloré, qui ici est imprimé sur du papier et collé, dans les premiers travaux de cet ordre, sur les murs de Paris, de façon tout à fait hasardeuse, selon les possibilités, etc. Toutes ces choses-là sont faites en tout début de l'année 68. Très curieusement, mais c'est complètement anecdotique, vous avez ici, par exemple, la première affiche dans le premier rassemblement à Nanterre en 68, en mars 68, si je me souviens bien, à partir duquel mai 68 a explosé. Donc ce travail aussi, c'est comme on va le voir dans beaucoup d'autres travaux qui ont suivi, ce sont des choses qui sont à plusieurs lectures. Il y a ce que je viens de dire, il y a qu'est-ce que c'est que ce signe qui apparaît comme ça au milieu de quelque chose d'autre. Il y a, à partir du moment où on voit que ce signe n'est pas tout à fait homogène avec ce qu'il recouvre, la raison de ce recouvrement. On n'est pas très loin, d'ailleurs, sauf que ça n'existait pas à l'époque, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des graffitis. Il y a aussi, évidemment, un certain amusement et une certaine critique vis-à-vis de la publicité qui commençait à être extrêmement envahissante sur les murs des villes. Et au fur et à mesure, même des changements dans la façon de pouvoir coller, qui au début étaient, comme ici et comme dans les pièces juste avant, fait rapidement et en essayant de ne pas se faire prendre par la police ou autre, et qui petit à petit, avec l'habitude et surtout en s'apercevant qu'on pouvait à l'époque dans Paris faire ce genre de choses très très tranquillement, remplit complètement le panneau et efface complètement la publicité qui est en dessous. Ces genres de travaux, bien sûr, durent le temps d'être couverts par quelque chose d'autre. J'indique aussi que toutes ces pièces-là, hors, je dirais, institution, sont faites totalement sans autorisation et sans préparation d'un public quelconque. Elles sont visibles là où elles sont pour ceux qui ont la possibilité de le remarquer ou la chance de le remarquer ou la malchance de le remarquer. Ici, c'est avec le même principe. À l'occasion d'une exposition qui a été très importante dans le déclenchement d'un nouveau sens de l'art, on peut dire, dans le milieu des années 60, dans la fin des années 60, en 69 à Berne, et qui s'appelait « Quand les attitudes deviennent forme ». Et cette exposition internationale, qui avait en son sein à peu près tous les artistes qui aujourd'hui sont considérés comme des classiques, me semblait très intéressante et je n'étais pas invité. Et j'ai pensé que là aussi, peut-être qu'on pouvait travailler même à côté ou dans une exposition de ce type sans être automatiquement invité par ceux qui organisent l'exposition. Et donc je suis allé à Berne et avant l'ouverture, avec l'aide de trois amis qui d'ailleurs, eux, exposaient dans cette exposition, nous avons recouvert à peu près tous les panneaux de la ville avec du papier blanc et rose, qui n'est pas très visible sur ma photo en noir et blanc. Et donc le lendemain matin, c'est-à-dire très tôt dans la matinée, ce travail, qui était pour la première fois, et d'ailleurs et la dernière fois où une telle mésaventure m'est arrivée, a fait que la police a retrouvé le numéro de la voiture, etc., et que je me suis retrouvé en prison dans la nuit, après avoir donc collé ces affiches. Mais cette anecdote n'est pas seulement pour la dire, c'est surtout pour indiquer que, contre moi, puisque je me serais bien passé d'une telle chose, il y avait une sorte de démonstration qui se faisait, à savoir que vous aviez là une exposition qui, pour la première fois, montrait des choses qui n'avaient plus vraiment la forme ni d'un tableau, ni d'une sculpture habituelle. Il y avait les premières des pièces de Joseph Beuys, c'était du Saint-Doux, par exemple, le long des murs. Il y avait un autre artiste, Wiener, qui avait fait un trou de 50 cm par 50 cm dans le paroi du musée, etc., etc. Donc des choses avec lesquelles peu de gens étaient habitués, et même pas du tout. Et donc, tout le discours était sur la liberté de l'artiste, la chose obtenue finalement d'un grand libéralisme. Et il était évident, mais cette démonstration l'a rendu encore plus, que si vous êtes en dehors de ce lieu précis dans lequel justement cette liberté peut s'exprimer, vous êtes réduit à la liberté de tout le monde, c'est-à-dire il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, cette pièce a donc été tellement vue que je me suis retrouvé en prison, et ensuite, je suis parti assez vite parce qu'on m'avait libéré avec, sous prétexte que je devais nettoyer la ville avant de partir, ce que je n'ai pas fait non plus. Dans le même genre de travaux sur la ville et sur, disons, des lieux à la fois extrêmement publics mais non institutionnels par rapport à, disons, l'œuvre d'art, le métro de Paris m'a servi de lieu en 70 et en 73 et où j'ai appliqué, comme on le voit sur cette photo, des papiers rayés sur les 140 ou 142 stations de Paris qui avaient ces panneaux où les spectacles et les films de la semaine, etc., sont marqués. Ça n'existe d'ailleurs plus. Ce qui est très très curieux, c'est que j'ai donc fait ce travail en 70 et en 73. En 70, c'était blanc et bleu en haut et en bas, blanc et orange en 73. Ce placement dans le panneau était seulement donné par le fait que lorsqu'il n'y a pas de publicité, c'est un panneau qui était tout gris ou tout bleu qui était mis. Et comme je m'étais intéressé à savoir ce que je pouvais faire avec ces panneaux, j'avais eu cette indication que si je donnais mon papier au lieu d'avoir le papier rose, il pouvait être installé lorsqu'il n'y avait pas de publicité à ce moment-là. Donc, le résultat, c'est que tous les panneaux étaient entièrement recouverts au même endroit. J'ai fait avec ça deux livres qui existent encore, qui sont tout bêtement la récapitulation de toutes ces stations prises à peu près comme cette photo en face du panneau. Et ce qui est tout à fait étonnant aujourd'hui, qui n'a plus rien à faire a priori avec ce que j'essayais de faire à l'époque, c'est que déjà, il était visible entre 70 et 73 que le métro commençait à changer. Vous pouvez vous rendre compte aussi que la publicité n'est pas la même. Vous pouvez également vous rendre compte, bien sûr, que la mode change, surtout pour les femmes. Et si maintenant vous regardez ces livres, vous ne reconnaissez presque plus le métro, tellement depuis cette époque il a changé. On arrive à une pièce à peu près de la même époque, en début 71, qui était pour le 6e exposition internationale du Guggenheim de New York. Et c'est sans doute le premier travail où, de façon tout à fait précise, ce que j'essaye de faire est en rapport direct avec l'architecture et le contexte architectural qu'il reçoit. Il y a bien sûr toujours d'autres types de contextes. Il y a entre autres là une exposition dite internationale qui a lieu à New York. Elle est très symptomatique de cette période aussi. À New York, à l'époque, ce qui était international, c'était une exposition avec 15 artistes américains et 5 européens. Donc une chose qui, même dans des expositions comparables en Europe, n'existait jamais, parce que la proportion était toujours au minimum 40-60, voire même 50-50. Ici, il y avait donc une énorme minorité d'artistes européens, et la pièce que j'ai faite, comme on peut le voir, utilisait cette caractéristique tout à fait spéciale du Guggenheim de prendre l'espace central qui, jusqu'à cette époque, n'avait jamais été utilisé, qui est en fait, dans cette architecture, fait de façon très précise pour être toujours la chose que celui qui vient voir le musée voit avant toute œuvre. Lorsque vous tournez donc dans ces rampes, vous êtes toujours attiré par le centre, et le centre, c'est non pas le vide, mais c'est cette architecture qui se déploie. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que l'architecte qui a conçu le Guggenheim, Wright, a dessiné une espèce de petit bassin dans le bas du Guggenheim, et que ce bassin, en fin de compte, dès que vous êtes en haut, vous voyez à quoi il ressemble, c'est-à-dire c'est un œil. Donc lorsque vous regardez, vous avez un œil qui vous regarde, et c'est l'œil de l'architecte. Donc ce musée qui est à la fois extraordinaire et quasiment impossible pour accrocher de la peinture, me semblait très intéressant pour ce genre de démonstration. Malheureusement, ça n'a pas plu à tout le monde et j'ai été censuré avant même l'ouverture du musée. Donc la pièce a disparu le soir même du vernissage, donc elle n'était pas visible. Et la censure, ce qui est toujours quelque chose de très difficile, d'autant plus que la censure, je pense, gagne toujours. Là, gagnait d'autant plus que, ayant utilisé un espace qui n'était jamais utilisé, il était impossible de se rendre compte que quelque chose manquait. Si vous utilisez une salle et que la salle est fermée, on va bien voir, même si la censure veut le camoufler, qu'il y a un petit problème quelque part. Or là, c'était impossible à voir et ça n'a pas été facile de pouvoir faire en sorte que cette pièce, non pas soit connue ou reconnue, mais les photos que vous voyez là sont simplement faites pendant l'installation, mais n'ont jamais été, la pièce réellement n'a jamais été vue par le public. Toujours à New York, en 73, une pièce qui s'appelle « À l'intérieur et à l'extérieur du cadre », faite dans une galerie, la galerie John Weber, au tout début de l'installation des galeries dans le bas de New York à Soho, qui consistait tout simplement à tirer un câble entre le building d'en face et la galerie, faire sauter la fenêtre de la galerie et continuer ce câble dans la galerie. Et là, de jouer sur les tailles, les tissus qui sont suspendus ont la taille exacte de la fenêtre qui est ôtée et passent au travers de façon perpendiculaire. Et la distance exacte qui se trouve dans la rue est reporté dans la galerie. Je pense qu'on va le voir un peu plus tard. Donc vous avez cette pièce qui sort à la même hauteur, dans la rue, et qui sort de la galerie. Le câble se trouvant au ras de la fenêtre, et la taille des pièces à l'intérieur étant égale à la distance de la rue, ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, montre que la rue est plus petite que la galerie. Alors c'était une façon de jouer sur l'intérieur, l'extérieur, bien sûr, sur aussi l'usure due aux intempéries à l'extérieur, le fait que, par exemple, l'extérieur est tout le temps en mouvement et que pour que la pièce soit visible, ce qui est une sorte aussi de paradoxe et en même temps un petit peu de métaphore, pour être en mouvement et libre dehors, cette pièce, elle est tendue en bas et en haut par des câbles, pour qu'elle ne s'enroule pas, pour qu'elle fasse comme une voile, etc. Sinon, c'est un torchon qui s'enroule autour du câble supérieur. Alors qu'à l'intérieur, je dirais qu'elle est libre. Elle a son propre poids qui la descend jusqu'à la hauteur qu'elle a. Donc on a ce paradoxe qu'à l'intérieur, elle ne bouge pas, elle est tranquille, elle est protégée et elle est libre. Et à l'extérieur, elle est à la liberté du vent, du soleil, etc. Mais en même temps, pour que ça marche, il faut qu'elle soit retenue. Cette pièce, exactement, je l'ai refaite 5 ans plus tard dans la même galerie. Et j'ai joué, mais je passerai sur ce détail, j'ai joué à ce moment-là avec une pièce identique sur tous les changements qui avaient lieu pendant 5 ans. La galerie a changé de forme, donc la pièce traversait la galerie, mais en plus des salles qui ont été construites dans la galerie. Et la rue s'était complètement transformée, puisque Soho est devenu dans cette période-là un lieu très fréquenté où les boutiques ont commencé à s'ouvrir, etc., etc. J'oubliais un tout petit détail. Toutes les fois que le tissu est utilisé, il y a toujours les deux bandes extrêmes qui sont peintes de blanc. Donc ici, on les voit bien parce qu'elles sont en contre-jour. Et ce détail qui, pour moi, est très important, même s'il n'est pas tellement visible, surtout au début quand c'est frais, il est, je dirais, juste un petit point qui, si on veut en parler, on doit réintroduire dedans un problème de peinture, alors que s'il n'existait pas, on pourrait introduire dans ce type de pièce un problème, je dirais, pour prendre les choses très, très globalement, un problème de ready-made. Et comme je suis assez opposé à cette façon de lire et cette façon de faire, la peinture a cette espèce de volonté de montrer que ce n'est pas un bout de tissu qui est exposé, mais c'est un morceau, si on veut parler de ça, un morceau de peinture. Ici, on est tout à fait dans un autre lieu, à Cologne, en Allemagne, sur une pièce qui devait avoir 3 étapes. Là, on en voit une qui se trouve être dans la rue. La taille de cette pièce correspond exactement aux largeurs des flancs des autos, des tramways, qui étaient aussi travaillés. Et cette même taille était, dans un troisième temps, réintroduite dans le musée. Alors ici, on a la même pièce, le même matériau, si on veut, mais dans le musée. Donc il y a encore là, une fois, une lecture, au moins en 3 temps. Et dans cette exposition qui s'appelait Kunst bleibt Kunst, qui veut dire plus ou moins l'art, c'est l'art, ou l'art revient à l'art, etc., il y avait un artiste dans cette exposition de groupe qui s'appelle Hans Hacke, d'origine allemande, qui avait proposé une pièce qui avait été interdite à l'exposition par les organisateurs du musée. Et comme, évidemment, ce genre de situations sont toujours quand même tout à fait intolérables, j'avais, avec son accord, eu une idée qu'il avait acceptée. Je lui avais demandé s'il pouvait me faire un duplicata à la taille exacte de la pièce qui avait été refusée. Il m'a donné donc le duplicata de sa pièce. Et j'ai collé même le travail fait dans le musée, la pièce qui avait été censurée. Alors, en 2 mots, la pièce en question, c'est un tableau de Manet, très connu, qui s'appelle le Bouquet d'asperges, qui appartient à ce musée. Et Hans Hacke avait choisi ce tableau et avait choisi de faire l'historique de ce tableau à travers son premier acheteur, d'abord Manet, ensuite tous les acheteurs, jusqu'au dernier, c'est-à-dire le musée. Et le seul problème là-dedans, c'est que l'un des acheteurs, juste en 37 ou 38, avait été quelqu'un qui avait acheté ça en spoliant des biens juifs, etc. Et donc, cette personne était encore en vie, et elle était en plus l'une des personnes bienfaitrices du musée. Et donc, le musée ne voulait pas trop que cette chose se sache ou se voit ou je ne sais quoi. Il a donc interdit que cette pièce existe. Donc, j'ai préparé mon mur la veille de l'ouverture, quelques heures avant l'ouverture. Et l'histoire de Guggenheim m'avait quand même servi de leçon, à savoir que s'il devait se passer quelque chose, il fallait quand même éviter que le résultat soit absolument invisible de la part des spectateurs. Donc j'ai fait un collage, ce qui est très propre à ce travail, sur le mur. Et sur ce mur, j'ai ensuite collé toute la pièce de Hans Sacker. Alors ici, c'est le nom des propriétaires, leur carrière, etc., etc. Donc ça, c'est la pièce d'Hans Sacker intégrée dans la mienne, comme un collage d'ailleurs classique, si on veut se rapporter à une certaine histoire de l'art du XXe siècle. Et pendant la nuit, après le vernissage, cette pièce ayant été donc vue par le public du vernissage, eh bien, les organisateurs du musée, les directeurs et autres, ont fait un collage à leur façon, c'est-à-dire qu'ils sont venus coller des papiers blancs sur tout ce qui était la pièce qu'ils avaient interdite, ce qui est évidemment à la fois grotesque et qui est du coup une censure absolument visible. Alors j'avais déjà changé le titre de l'exposition. Vous voyez, même la reproduction du Manet est recouverte de papier. Et au lieu d'avoir j'avais mis dans la pièce, j'ai oublié ce détail, une affiche qui, au lieu de prendre le titre Kunstbleibt Kunst, j'avais changé en Kunstbleibt Politik. Et évidemment, quand s'est passée cette espèce de censure tout à fait absurde, le titre prenait tout à fait une autre écho. Et à la suite de ça, une vingtaine d'artistes exposants se sont retirés de cette exposition. Ici, on passe dans un autre musée, qui est le musée Pompidou, le centre Beaubourg, où le directeur de l'époque, Pontus Ultène, m'avait demandé de faire un projet pour acquérir une pièce. Je donne ces détails parce que ça fait partie aussi du travail, c'est-à-dire que les choses sont toujours enserrées ou éclairées par un contexte, et à cause de ce contexte, ou à cause de ce lieu, ou à cause des gens qui occupent ce lieu, prennent telle ou telle coloration. Or, en fait, là, il ne s'agit pas d'une exposition, mais il s'agit d'une pièce achetée, enfin, d'une demande, en tout cas de projet, parce qu'on n'allait pas accepter quelque chose sans qu'il y ait un projet, pour la collection permanente du musée. Et ce détail est très important. Donc, j'ai proposé une pièce qui a été acceptée, et qui consistait, alors quand j'ai fait le travail, le musée était en construction, et on l'a installé complètement en 77, 3 ou 4 mois après l'ouverture du musée. Ce travail consistait à mettre sur les 3 parties ouvertes à la ville 3 longues-vues. Avec chacune de ces longues-vues existe un plan, et sur ce plan est indiqué où se trouvent dans la ville des drapeaux, comme celui que vous voyez ici dans le bas de la photo, et qui ont simplement pour règle d'être à la fois qu'il y en ait toujours au moins 3 ou 4. La pièce entière est au minimum de 15 éléments, et ensuite elle peut être de 20, 25, 30, par augmentation de 5 à la fois. Il y a 5 couleurs, et il doit y avoir au minimum 3 ou 4 pièces, 3 ou 4 éléments visibles à l'œil nu, et le reste seulement visible avec la longue vue. Donc il y a tout ce travail sur la vue, sur ce qu'on voit avec nos yeux, ce qu'on voit avec un instrument, etc. Et L'œuvre se déploie sur les toits de Paris, une moitié sur des toits publics et une autre moitié sur des toits privés. Alors, bien sûr, cette pièce, elle est visible depuis Beaubourg. On peut dire que Beaubourg, c'est le lieu d'information, c'est le musée. On peut dire aussi que Beaubourg, comme tout musée, est un instrument pour voir. Là, il y a un instrument pour voir aussi quelque chose. Alors, à ce moment-là, on peut faire pas mal de parallèles sur les instruments en question. Le premier que je signalerai, qui est l'un des plus évidents, c'est que lorsque vous regardez dans une longue vue ou lorsque vous regardez dans un microscope, l'instrument qui vous permet de voir quelque chose de très petit ou de rapprocher quelque chose qui est éloigné disparaît au moment même où vous mettez votre œil. L'instrument musée, en revanche, est toujours là dans votre œil. Donc, et vous pouvez vous amuser à faire d'autres comparaisons de ce type sur les deux types d'instruments. L'autre aspect de la pièce, c'est qu'une fois qu'on en était informé, on pouvait aussi voir cette pièce de n'importe quel endroit dans Paris. Il n'était plus absolument nécessaire d'aller dans le musée pour voir la pièce en question. Et on peut même dire que si on se mettait sur un autre point de vue à Montmartre ou sur un building assez haut dans Paris, on pouvait à son tour rejouer avec cette pièce en partant d'un autre point de vue. Alors, il ne faut pas perdre de vue que c'est fait partie de la collection permanente du musée. Mais comme toutes les œuvres qui sont dans le musée, évidemment, elles ne sont pas toutes montrées. Donc, cette pièce, pour être montrée, demande un autre type de travail que d'accrocher les œuvres sur les murs du musée. Mais le système pour la montrer, au point de vue théorique, est exactement le même. Dans le même moment, un autre projet qui a été accepté et qui fait aussi partie des collections permanentes de Beaubourg se trouve être quelque chose qui joue sur un tout petit détail par rapport à l'ensemble des choses qui se passent dans un musée, qui sont de l'ordre à la fois de la réflexion, de la vue, etc., qui est de faire un travail qui se trouve complètement prendre l'espace pris par certains tableaux, leur cadre compris. Donc ici, le musée a choisi 5 tableaux. Et derrière ces tableaux, vous avez un rectangle de tissu qui, ici, est décrit en dessous du nom de l'artiste Maurice Dutrieux, le deuxième artiste Daniel Buren, le titre de l'œuvre, etc., etc. Très curieusement aussi, même pour moi, quand cette pièce est accrochée, elle n'est pas très souvent mise d'ailleurs, mais quand elle est accrochée, elle est souvent très remarquée. Et la raison très simple, c'est que dans un musée, les gens lisent beaucoup plus les choses écrites que les tableaux qui sont accrochés. Et comme il y a beaucoup de gens qui vont lire et qui, pour savoir le titre de l'œuvre, etc., ils tombent là-dessus et du coup commencent à réfléchir ou commencent à se dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» C'était surtout frappant quand les drapeaux qui étaient dehors étaient moins vus que cette pièce qui est à l'intérieur. Alors on peut dire entre ces deux pièces que, faisant partie de la collection permanente, il y en a une qui est le plus loin possible du musée et qui, à cause de ça, n'est pas facile à voir. Et il y en a une autre qui est tellement dans le musée qu'elle n'est pas non plus très facile à voir. Autre travail dans un musée, celui-ci, un musée américain à Hartford, qui est un musée, en fin de compte, qui possède collections depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et là, j'ai fait tout un travail sur l'encadrement, le musée étant lui-même déjà assez intéressant parce qu'il a conservé dans une grande partie du musée son ancien aspect, c'est-à-dire les murs sont colorés, chaque salle a une couleur différente. Les tableaux sont mis d'une certaine façon très, très, très classique. Et j'ai donc décidé d'encadrer en laissant entre le cadre du tableau et mon encadrement la couleur du mur apparaître. Tous les tableaux qui se trouvaient dans des axes de porte dans tout le circuit du musée. Ce qui me permettait de faire un choix sans en faire un Et ce qui permettait aussi de découvrir que, et c'est un truc de conservateur de musée bien connu, bien sûr, que les travaux, que les œuvres qu'on a vraiment envie de montrer au public plus que les autres sont les œuvres qui sont dans un axe direct d'une porte. Et là aussi, la raison est tout à fait simple et physique. Vous marchez dans le corridor pendant, disons, 10-15 mètres. Donc pendant 10-15 mètres, vous n'avez qu'un seul tableau que vous voyez. Et quand vous arrivez dans la salle où il y en a 15, celui que vous avez déjà vu pendant 3 minutes est déjà celui qui est le plus important. Et vous avez là déjà une idée des manipulations des choses qui sont montrées, lorsqu'elles sont montrées, et ce n'est pas a priori une critique, c'est un constat, et c'est quelque chose d'intéressant pour se rendre compte que sa propre curiosité est souvent mise, pas en doute, mais en tout cas est combattue par la curiosité ou par l'intérêt de ceux qui montrent ces choses, ont envie de vous montrer. Alors tout le musée est travaillé de cette façon-là. Ici, vous avez un très fameux tableau de Panini qui, en fait, est presque la clé de toute l'exposition que j'ai faite dans ce musée et qui appartient, bien sûr, au musée, qui est une espèce d'exposition d'œuvres comme on ne les voit plus jamais aujourd'hui. Mais ça prouve beaucoup de choses sur qu'est-ce qui se passe, et j'ai fait là-dessus pas mal de travaux. Qu'est-ce qui se passe, que veut dire cette manipulation des œuvres? A-t-elle affaire avec les œuvres? A-t-elle affaire avec une époque? A-t-elle affaire avec les conservateurs? Où est l'artiste dans cette histoire? Est-ce qu'il a son mot à dire ou est-ce qu'il n'a plus de mot à dire, puisqu'il s'agit parfois de pièces où les auteurs sont morts depuis plusieurs siècles? Mais il y a un point d'interrogation là-dessus. Vous voyez ici le phénomène du couloir. Ça, c'est une des pièces maîtresses du musée, un Zurbaran. Ben, ce Zurbaran, vous le voyez beaucoup plus longtemps que toutes les autres pièces du musée. Là, on reste dans le musée, c'est tout à fait différent. C'est une exposition personnelle au musée de Eindhoven, en Hollande. Et l'exposition que j'ai faite, en fait, à ce moment-là, c'était seulement de faire des gilets spéciaux pour les gardiens. Et pendant l'exposition, pendant le mois d'exposition, c'était la pièce exposée. C'est un travail à peu près de la même époque, je dirais assez didactique, peut-être trop didactique à vue avec le recul, mais qui joue aussi sur la force des comptes, des contextes et de la façon de voir, du cadre dans lequel on peut voir une chose. Donc ici, vous avez des voiles qui respectent le dessin des voiles de ces petits bateaux qui s'appellent des optimistes et qui a été faite pour la première fois dans le lac de Wannsee à Berlin. Alors les jeunes enfants font une espèce de course et la régate se passe comme elle se doit, avec généralement beaucoup de plaisir. Les enfants adorent faire ça. C'est très beau à voir, pas plus que de voir un beau bateau et même des bateaux plus gros, mais enfin, c'est toujours agréable à voir. Et je dois dire que, à part les gens spécialement invités et connaissant mon nom, les gens assistent à la régate pour une régate et pas pour autre chose. Et ensuite, par ordre d'arrivée de gauche à droite, toutes ces toiles sont installées ici dans un musée à Berlin. Et comme on peut le voir même sur la photo, on pense beaucoup plus à des œuvres, à des toiles si on veut, qu'à des voiles de bateaux, à moins d'être un spécialiste de ce genre de petits bateaux. Et donc le cadre dans lequel on est a une percussion énorme sur la façon de voir ce qui est montré. Ça a été fait dans plusieurs endroits. Ici, bien sûr, on n'est plus à Berlin, mais on est sur un lac suisse. Ça a été fait sur une rivière, ça a été fait sur la mer aussi, à Tel Aviv. Et ça, c'est pas moi. C'est pas mal non plus. Alors ça, c'est une photo prise dans une petite île du Pacifique et qui n'a strictement aucun intérêt spécifique, si ce n'est de vous rappeler que ce que je vous montre, ce sont des photos et pas les travaux, et que c'est aussi loin de ces personnes qui sont ici photographiées que le travail lui-même. Donc, de ne pas perdre de vue que ce sont des choses qui sont un peu bancales, qui sont ou trop spectaculaires ou pas assez, et que rien ne remplace l'expérience que vous pourrez faire devant un tableau, comme devant des travaux comme ceux que je fais, et encore plus dans des travaux comme ceux que je fais, puisque le déplacement du corps et le point de vue est tellement important, et en plus n'est pas décidé par moi à l'avance. Contrairement plus ou moins à une peinture dans laquelle le point de vue est assez fixe, il est frontal, et qu'à moins de faire des gags, on ne va pas voir le tableau ni à 2 km de là où on est, ni en dessous, ni sur le côté. Ici, nous sommes dans l'ancien musée d'art moderne, le MoMA de New York, qui a changé, qui n'est plus du tout comme ça. Et là, on était sur la vitrine qui séparait le jardin du musée du musée lui-même. Cette vitrine avait une forme un peu spéciale avec tous les bords arrondis et je me suis servi de cette vitrine comme modèle. En face de chacune de ces vitrines est projetée à l'intérieur de ce corridor, c'est une exposition de groupe et j'ai choisi le corridor avant d'entrer dans l'exposition elle-même, avec donc cette projection qui reprend la forme et qui se trouve être des papiers sérigraphiés noir sur du papier transparent. Donc, la couleur qui apparaît entre les bandes noires est la couleur du support sur lequel ça se trouve. Là, on voit très bien à travers la porte. Et perpendiculairement à ce corridor se trouve le mur en marbre qui délimite l'une des parties du jardin et qui ensuite monte sur une partie supérieure. Tout ça n'existe plus aujourd'hui. Le même matériau est collé. Alors, automatiquement, il n'a pas du tout la même allure puisque au travers de ce matériau passe le marbre avec ses dessins, ses zébrures, etc. Et ensuite, non seulement il est perturbé de l'intérieur par rapport à ce qu'on a vu dans le musée, mais ensuite, il est découpé par l'architecture. Alors, ici, il perd son chapeau et là, il perd quasiment l'ensemble à cause de l'escalier qui se trouve là. Donc, le musée, une fois de plus ici, est centre de l'exposition, centre de l'information, et à partir de la lecture de cette pièce, on pouvait, et c'était quand même indiqué pas loin de là où il y avait mon nom, savoir où cette partie manquait. Alors, cette partie se trouvait sur un autre support, dans le bas de la ville, sur le building des galeries de Soho, qui était aussi à la même époque que la pièce que j'ai montrée avant, à la même hauteur par rapport au sol. Et ensuite, vous avez ici toute cette partie qui manque, qui se retrouvait sur une affiche dans le bas de la ville, en négatif, si on veut. Et donc, l'idée même de voir la pièce, c'était évidemment de parcourir tous ces fragments et de les reconstituer, je dirais, dans votre tête et non pas, comme on peut le voir ici, d'une photo à l'autre, ce qui simplifie les choses et qui les réduit un petit peu par rapport à ce que c'était. Mais ça les rend aussi plus lisibles. Toujours dans un musée, on se trouve ici à Chicago, dans l'Art Institute de Chicago, qui est un très grand musée américain, et qui a aussi une caractéristique tout à fait spéciale et unique, qui consiste à avoir une énorme baie vitrée, qui est généralement d'ailleurs cachée par un mur, mais là, en l'occurrence, j'ai fait descendre ce mur qui est devant, et cette baie vitrée, et quand on voit ce qu'il y a derrière, évidemment, on comprend pourquoi cette baie vitrée n'est pas ouverte, donne sur les voies de chemin de fer qui traversent la ville et qui vont vers la banlieue. À partir de cette situation, j'ai pensé à une pièce, et il nous a fallu quelques années pour la réaliser, mais on y est arrivé, qui utilise directement les chemins de fer qui passent à cet endroit. Donc on a une pièce ici qui joue à la fois sur le cadre, qui est le cadre du musée, et sur le temps, et on va voir comment. Alors, sans oublier que ce que vous voyez ici, qui est un énorme pont, c'est la galerie principale du musée, qui se trouvait en fait un pont au-dessus du chemin de fer. Voilà la vitrine que l'on ne voit presque jamais, puisqu'elle est cachée par un mur, et qui, d'une certaine façon, ressemble un petit peu à un châssis, un énorme châssis de tableau. Alors, devant cette vitrine était indiqué, avec un petit panneau, le titre de l'œuvre qui s'appelait « Watch the doors, please », donc « Attention aux portes », c'est un truc que disent les conducteurs des trains, en général, aux États-Unis. Et à un moment précis, quand les trains sont à l'heure, on pouvait voir la pièce arriver. Et repartir, bien sûr. Qui consistait à avoir changé toutes les portes de tous les trains qui passent là, en fait. Avec, je crois, 5 couleurs aussi, différentes, et qui étaient ensuite, à la suite des manœuvres, des wagons, etc., etc., toujours dans un ordre aléatoire. Il pouvait y avoir tout un train d'une seule couleur, ou bien un train avec des alternances. Alors, une pièce comme ça, comme beaucoup d'autres, donc c'est aussi une façon de lire qui n'est pas univoque. Dès que vous êtes dehors, ce train, bien sûr, qui va jusqu'à une centaine de kilomètres de Chicago, est toujours le même et ne peut pas signifier tout à fait la même chose que lorsque vous êtes dans le musée en train de regarder cette chose qui passe sous vos yeux. Alors, on revient en Europe. Ici, on est à Lyon. Et c'est toute une série de travaux faits sur la sculpture urbaine. De la même façon que ce que j'avais fait au tout début, et que j'ai continué de faire, d'ailleurs, je ne montre évidemment pas tout, dans les villes, pas seulement en Europe, mais aussi au Japon, et en Australie et en Amérique, sur le travail de coller des choses dans la rue, m'ont beaucoup en fait appris sur et beaucoup intéressé sur l'urbain, sur qu'est-ce qui se passe dans la ville, etc., etc. Et je pense que ça, comme la pièce qu'on va voir maintenant, m'a beaucoup servi quand j'ai pu ensuite faire des choses, disons, de façon plus permanente dans la ville. Ici, nous sommes à Lyon, et l'idée de cette pièce, c'est d'abord de repérer toute la statuaire. Cette chose est faite en 80. Donc toute la statuaire existante en 1980 dans la ville de Lyon, dans tous les lieux publics, à l'exception de tout lieu privé ou de lieux difficiles d'accès. Quand on a repéré toutes ces statues, le travail a consisté à essayer de définir dans ces œuvres, alors on va en voir quelques-unes en photographie, où se trouve plus ou moins la racine ou le socle de cette chose en question. Je dis cette chose parce que, en étudiant ça, je me suis rendu compte que ça, c'est l'œuvre d'un sculpteur. Généralement, fait sans aucune idée du lieu où cette chose peut aller. Ensuite, quand les autorités décident qu'on a envie de mettre cette œuvre quelque part, on fait appel à un architecte. L'architecte, il fait ça. Et puis, ensuite, on ne sait pas trop si c'est l'architecte qui a fait ça ou si ça a été fait dans le même moment, mais par des services plus techniques. Et vous avez presque toujours ce type de lecture, plus ou moins sophistiquée, où sont mélangés des gens qui ne travaillent pas en même temps et qui finalement atterrissent dans des lieux extrêmement importants pour lesquels les œuvres en question n'ont jamais été faites. Alors ça, c'est ce que j'ai appris à Lyon. On a donc travaillé sur toutes ces sculptures. Et ce que j'ai fait, c'était seulement d'entourer ce qui semblait être le plus probablement le socle. Alors, ensuite, ce que ça veut dire aussi de faire ça en blanc et rouge ici, par exemple, c'est que dans la mesure où les statues sont quand même faites pour mettre en valeur soit ici un buste, soit un cheval, soit tout ce qu'on veut, on a tendance à regarder ça et à ne pas peut-être voir vraiment le monument en question. Donc je pense que d'avoir quelque chose qui accroche l'œil en bas oblige plus ou moins à faire ce va-et-vient avec l'œil et d'embraser tout le monument en question. Alors, on a fait un livre avec ça. Alors évidemment, on peut après ça s'amuser un petit peu à voir qui a droit à une tête qui est même pas, qui est une ronde bosse, qui a droit à son buste, qui a droit à son buste jusqu'à la ceinture, qui a droit à un cheval s'il est monté sur un cheval. Ensuite, on s'aperçoit que dans la ville, il y a des quartiers évidemment où il n'y a absolument pas de statuaire et d'autres où il y en a beaucoup trop. Et comme par hasard, on peut définir les quartiers par leur côté socio-culturel. Et généralement, les quartiers riches ont beaucoup de sculptures et les quartiers pauvres ou ouvriers n'en ont peu ou pas du tout. Et il y a toute une histoire de la ville et on peut faire l'expérience, je pense, à peu près partout dans toutes les villes du monde et retrouver ces mêmes caractéristiques. Là, par exemple, on ne sait même plus ce qu'il y a en dessous. Et lorsqu'on a fait un livre là-dessus, alors le livre consiste à faire une histoire absolument précise de toute la statuaire qui n'avait pas été faite avant, très difficile à faire aussi parce que les archives ne sont pas toujours existantes. Et ensuite, sur la page opposée, alors photographie et historique de la statue, et sur la page opposée, le dessin du socle et donc le périmètre et la surface utilisée dans l'espace urbain. Et le livre se lit comme ça, d'une page à l'autre, à la fois sur l'historique et ensuite sur la position dans l'espace urbain. Ici, nous sommes à Ushimado, une petite ville, c'est même un village au Japon, où, à l'occasion d'un festival, j'avais fait un travail qui jouait véritablement sur ce paysage et ce lieu tout à fait magnifique qui domine la mer, qui a consisté à installer quelques cadres, et on va voir de formes différentes, tout fixé sur la mer. Et on voit ici une ligne très droite. Cette ligne très droite est une jetée qui est un monument historique japonais. Et sur cette ligne très droite, j'ai installé 200 drapeaux sur à peu près 2 mètres par drapeau, 400 mètres de long, qui, eux, forment une sorte d'arc-en-ciel sur cette jetée, visible d'à peu près partout aux alentours et surtout de cette colline sur laquelle étaient installés ces points de vue. Donc à chaque fois, vous avez la ligne et vous avez un autre type de cadre. Et à ce sujet, j'ai repris le titre, le nom que je trouve magnifique que les Japonais utilisent pour parler d'un cadre ou parler d'un encadrement, quelque chose de ce type, et qui est en fait, en traduction, voudrait dire non pas encadrer le paysage, mais emprunter le paysage. Et cette nuance est vraiment très belle, parce que même par rapport à tout mon travail, lorsque quelque chose comme ça est même très fixe et très, je veux dire, très précis dans sa direction, si la chose n'est pas, disons, qu'une œuvre entièrement nouvelle créée, mais qu'elle incorpore presque toujours des choses qui existent, on peut dire que ces choses-là ne sont pas appropriées, mais qu'elles sont empruntées. Là encore, c'est une pièce qui se voit de dizaines de lieux différents. C'est aussi la raison pour laquelle je vous montre beaucoup de photos d'une pièce, dans la mesure où c'est un peu plus proche du cadre définitif que donnerait la photo prise si je vous montrais qu'une seule photographie. Ici, je vais aller très vite parce que vous connaissez sans doute tous, ou plus, presque tous, le palais. Au Palais Royal, mais ça vous permettra peut-être de voir, si vous ne l'avez pas deviné vous-même, comment c'est construit. Très vite, ici vous avez le Conseil d'État, ici vous avez la Comédie Française et le Conseil Constitutionnel, ici vous avez la double rangée du péristyle qui vous amène par là vers le jardin, et ici vous avez le ministère de la Culture et un petit morceau du Conseil d'État. On est donc adossé au Conseil d'État, et l'idée de la pièce était aussi de montrer le sous-sol. Lorsqu'on a travaillé tout de suite, on s'est rendu compte que le sous-sol était quasiment intouchable parce qu'il est rempli de choses assez importantes. Par exemple, à peu près ici, tout ce rectangle, c'est la salle principale de répétition de la Comédie Française. Ensuite, vous avez en zigzag un peu partout des couloirs, soit qui mènent aux archives, soit qui sont des égouts anciens, soit des égouts actifs. Donc très peu de lieux, sauf ici, sont touchables. En partant de ce donné invisible et sous-sol, on a créé trois grandes tranchées qui sont axées vers le jardin. Ces tranchées sont prises là où on pouvait donc creuser, avec une certaine possibilité d'être absolument rigoureux. Vous avez donc ici, mais vraiment à 25 cm, entre cette tranchée, celle-ci et celle-ci, vous avez la salle de la Comédie Française. Ensuite, la construction, elle est faite en partant de cette colonnade. Alors vous, là, il n'y en a qu'une de montrée, mais vous savez qu'il y en a une autre juste derrière. Donc cette double colonnade, qui est le seul endroit dans tout ce jardin où les colonnes sont à distance égale les unes des autres. Alors, c'est tellement bien fait qu'on ne remarque pas cette différence. Mais qu'en fait, si vous allez de ce côté-là ou de ce côté-là, les colonnes sont toujours espacées de façon différente les unes des autres. Donc, cet alignement ici m'a servi de support et de maître étalon pour construire une grille carrée, que vous voyez comme ceci, qui, en se mettant dans le sens de la largeur, vous montre de façon très claire que les colonnes qui sont ici ne sont jamais espacées de la même façon. Et si vous retournez sur le lieu, vous verrez comment ça apparaît. Ensuite, au milieu de ce quadrillage, est installé un polygone qu'on a appelé des colonnes, et qui sont pour la plupart des polygones assez bas, qui reprennent la hauteur du pied de toutes les colonnes du Palais Royal. Et ces polygones bas forment un plateau rigoureusement horizontal. Ensuite, dans la tranchée même, vous avez une série de colonnes ou de polygones qui sont beaucoup plus hauts et qui, paradoxalement, sont tous de la même taille, mais par le fait qu'ils sont sur un plan incliné qui part ici du point haut, ici il y a un autre point haut et ici il y a un autre point haut. Et l'eau vient comme ceci et comme ceci. Donc vous avez les points hauts, l'eau sort de là et elle débouche là-dedans et elle va dans un recyclage et elle repart, etc., etc. Et ici, ces polygones très hauts descendent avec la tranchée et donc on donne l'impression à l'œil de ne pas avoir les mêmes tailles, et c'est le deuxième plateau, qui est lui un plateau incliné, qui montre une diagonale qui va de là à là. Donc vous avez dans le sous-sol ici la construction du local technique, qui permet cette circulation d'eau. Vous avez ici le démarrage des tranchées. Vous avez ici les coupes, qui vous montre l'emplacement énorme pris par la Comédie Française, par exemple, dessous. Donc là, impossible de creuser quoi que ce soit. Ici, vous avez les tranchées. Et puis ici, vous avez des démarrages d'égouts. Là, c'est un égout aussi, etc., etc. La confection des pièces s'est faite en dehors de Paris, dans la banlieue parisienne. Et tous les matériaux utilisés sont des matériaux parisiens. Le marbre, la pierre, le ciment, le fer, l'asphalte et l'eau. Électricité, j'oubliais. Voilà l'état du chantier avant la fameuse interruption qui a failli tout détruire. Et ensuite, la pièce terminée. Alors, comme ici, je vous l'ai dit, vous avez les points hauts et vous avez ces grands polygones qui descendent de ce côté-là. Ensuite, ils reprennent la même inclinaison que si ce plateau entier était incliné sur sa diagonale. Repart ici, jusqu'ici, et ici, c'est déjà donc très bas dans l'inclinaison, et vient s'enfouir par ici. Là, on ne voit pas très bien. Tous les dessins, alors ça c'est aussi une chose qui apparaît dans tous les travaux, quels qu'ils soient, mais c'est beaucoup plus prégnant dans la commande publique. Tous les dessins, quels qu'ils soient, sont toujours en rapport avec des contraintes. Alors, et ces contraintes finissent par donner la forme. Ici, vous avez par exemple les mêmes polygones, mais arasés. Et ils sont arasés pour quelle raison ? Simplement pour que les pompiers, éventuellement, puissent venir ici circuler le long des bâtiments. Donc l'obligation de ce passage de véhicules de sécurité donne un dessin et une forme différents de toutes les autres qui, sans cette obligation, n'auraient jamais existé. Au Palais Royal, vous avez aussi toutes les pièces, toutes les tailles qui sont à la fois verticales et horizontales. Les grands poteaux, par exemple, ici, sont exactement de la taille de la trame. Ensuite, ils s'enfoncent, et lorsqu'ils sont au niveau zéro, c'est que vous êtes dans un cube parfait qui a la taille de la trame en question qu'on peut voir, elle, sous les yeux, sur le sol. J'avais des choses plus récentes, mais ce sera pour la prochaine fois.
Bonjour. Vous travaillez avec l'architecture. Dans quelle mesure peut-on dire que vous travaillez l'architecture ?
Oui. Je dirais que c'est pas peut-être moi qui suis le mieux placé pour répondre à cette question. Il y a déjà deux positions un peu différentes. Il y a le fait qui n'est pas visible dans les choses que j'ai montrées là, mais qui existe dans d'autres travaux, qui consiste à travailler sur un lieu quand ce lieu n'existe pas. Je parle d'un lieu construit et que le travail qui va s'y faire est fait, commencé, élaboré et réalisé avec un architecte, par exemple. Alors là, on peut dire peut-être les deux choses, mais on ne sait pas à quel moment l'influence existe de travailler avec l'architecture ou de travailler l'architecture. Je pense que le travail se fait aux deux niveaux à la fois, mais dans la préparation et dans l'élaboration du travail même. Maintenant, quand l'architecture existe, ça, j'ai du mal à vous répondre. Je pense que les deux peuvent avoir lieu. Travailler avec l'architecture, c'est sûr. Travailler l'architecture, c'est peut-être quand c'est très réussi.
Une question ici.
Oui, d'après les photos que vous nous avez montrées, il semble que votre œuvre consiste surtout à disposer toujours le même objet assez neutre, finalement, dans différentes situations dans l'espace pour animer cet espace. Je me demande si ce n'est pas plus, finalement, un travail d'architecte, de travail comme ça d'animation de l'espace, plus que d'un peintre, car pour moi, en tous les cas, la peinture, c'est une œuvre qui doit déclencher l'imaginaire par elle-même et non pas, finalement, une animation de l'espace qui, encore une fois, pour moi, est peut-être plus le travail d'un architecte.
Oui, vous avez presque fait la réponse en même temps, c'est-à-dire... Moi, je pense que ça n'a aucune prétention architecturale et je pense que c'est très différent de l'architecture. Je travaille avec ou je travaille parfois d'ailleurs de façon critique vis-à-vis d'un donné construit, mais pas pour autant en tant qu'architecte ou comme un architecte. Donc je pense que ça, c'est déjà très différent. Que ça ressemble d'une certaine façon à l'architecture, on pourrait dire ça de toute la sculpture, dans la mesure où, dès que vous êtes en trois dimensions, vous avez un rapport à l'espace. Je pense que c'est le seul rapport que je verrais entre l'architecture, la sculpture, et ce que je fais, que je n'aime pas dénommer. Bon, ça fait partie des choses qui sont justement des questions. Si je ne dis pas a priori, j'emploie souvent le mot, je crois... travail, qui n'est pas d'ailleurs tellement brillant, mais simplement pour dire que quelque chose est fait, ou quelque chose se fait, ou quelque chose a été fait. Si je méfie du mot peinture ou sculpture, et architecture me gêne moins, parce que je ne suis pas architecte et je ne me considère pas du tout comme tel, mais peinture et sculpture me semblent tellement lourds que je pense que dès qu'on l'emploie et qu'on ne fait pas, je dirais plus ou moins ce que chacun a un peu dans la tête quand il a ce mot qui arrive, peinture ou sculpture, c'est une facilité, parce qu'en fait, on est tout de suite dans la provocation. Si je voulais vous maintenir que tout ce que je viens de vous montrer, par exemple, et certains artistes, avec ce qu'ils font, utilisent ce genre d'argument, que tout ce que je viens de vous montrer, c'est de la peinture pure, vous imaginez tout de suite dans quel type de débat on va rentrer. Et il est très facile, d'une certaine façon. Donc, je le définis très mal. Mais ça a forcément à faire et avec la peinture, et avec la sculpture, et avec l'architecture, dans la mesure où ça se passe dans l'espace, et que donc, il y a un mouvement, il y a l'espace aussi privé, de la personne privée qui déambule dans cette chose. Dans ce sens-là, je dirais que c'est plus proche de ce qu'on pourrait admettre être de la sculpture que de la peinture, dans la mesure que dans la peinture, sauf peut-être dans les énormes fresques ou choses comme ça qu'on doit voir en marchant le long d'une fresque ou autre, dans la peinture, disons, depuis fort longtemps, en tout cas tout le XXe siècle, on ne marche pas, on n'a pas cette chose d'espace, alors qu'on l'a dans toute la sculpture, quelle qu'elle soit, ne serait-ce que de tourner autour d'une... d'un objet sculpté. Donc, je ne suis pas d'accord sur le fait que c'est de l'architecture, mais si je ne dis pas que c'est de la peinture ou que c'est de la sculpture, c'est parce que je pense que ça amène... Je préfère que d'être dans une chose plus compliquée pour essayer de définir, de mon côté, bien sûr, mais aussi de la part de ceux qui regardent, de quoi ça retourne. Ce que vous dites, d'ailleurs, qui est une opinion... que ça a plus à faire avec l'architecture, moi, je ne pense pas, mais je l'écoute, je veux dire. Ça veut dire que ce n'est pas là où vous voyez ni de la sculpture, ni de la peinture, par exemple. Mais c'est pour ça, ça m'intéresse, ça me semble plus questionnant d'essayer de voir si on doit définir, comment on définit. Alors que si, et c'est pour ça même que le titre de cette conférence, « Le sens de l'art », est un titre très très compliqué parce que d'abord c'est évidemment des vieilles lunes de dire ça, mais de quel art on parle, l'art de quoi, l'art c'est quoi, Et je pense que, sans du tout vouloir dire que je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne sais pas ce que je fais, je n'ai jamais prétendu que c'était a priori du domaine, c'est du domaine peut-être, mais je n'ai jamais prétendu a priori que c'était de l'art, parce que ça voudrait dire que je sais ce que c'est. Et je pense que si je savais ce que c'est, tel que je suis, je n'en ferais plus. Ou ça ne m'intéresserait pas, ou je ne parlerais pas comme je parle. Donc c'est un peu une question qui est posée et qui donc navigue forcément dans des lieux qui sont déjà cernés sans être complètement dans ce lieu-là. C'est pour ça que je ne vais pas non plus faire une jaunisse si on me dit c'est très... beaucoup de gens sur des choses peut-être plus récentes ou alors que je l'ai toujours utilisé semble plus évidente au niveau de la couleur, disent que c'est vraiment un travail de peintre. Ben, je veux bien, j'écoute aussi. Mais je pense que si à ce moment-là on se met à parler de ça, ça devient très intéressant, mais ça devient aussi très, très, très critique. Parce que si ça, c'est de la peinture, j'aime à ce moment-là qu'on m'explique qu'est-ce qui en est aussi ou qu'est-ce qui n'en est pas ou qu'est-ce qui n'en est plus.
Il y a une Pardon. Question là.
Attendez, excusez-moi.
Voilà. Non, une seconde. Oui, allez-y.
Et je voulais vous demander quel a été votre vécu du Palais Royal et des Jardins avant votre œuvre, votre vécu personnel et le même vécu personnel après, pour vous-même.
Bon. Bon, ben d'abord, je pense que si y a une chose intéressante à pouvoir travailler beaucoup, ce qui est mon cas. Et que je trouve est un privilège, parce que ce n'est pas effectivement si facile de pouvoir travailler. En général, on apprend, sinon à chaque fois, on apprend un petit peu à chaque fois, et on apprend parfois pas mal de choses sur certains types de travaux. À ce niveau-là, l'épisode Palais Royal m'a appris beaucoup de choses. D'abord, c'est sans doute la première fois que j'ai travaillé très proche avec un architecte, qui est Patrick Bouchain, qui était mon assistant sur ce travail. Et d'un seul coup, je me suis trouvé dans une situation où, en tant qu'artiste, on ne se trouve jamais. On peut dire d'une certaine façon que l'artiste est, et c'est vrai encore aujourd'hui d'ailleurs, et même pour moi, mais dans la plupart du temps, est très seul. C'est-à-dire que tout se fait quasiment à la force du poignet, et seul, seul, seul. D'un seul coup, lorsque vous vous lancez dans une chose comme celle de la cour d'honneur du Palais Royal, vous êtes tout de suite confronté à une large équipe. Non seulement, disons, l'assistant le plus près, mais d'un seul coup, un rapport que je n'avais jamais eu de ma vie avec le maçon, avec l'ingénieur des fontaines, avec enfin, tout ce que demande la mise au point d'une pièce comme celle-là. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'ai découvert là une façon de pouvoir travailler qui est beaucoup plus enrichissante que peut-être la solitude obligée de l'artiste aujourd'hui. Donc, je ne suis pas tout à fait... Précisément après cette pièce, j'ai dû beaucoup changer et j'ai vu les choses un peu différemment. Il y a aussi le fait d'avoir pu, dans ce travail-là, d'une façon très simple pour moi et sans doute totalement naïve, appliquer des choses que j'avais déjà tentées d'une façon beaucoup plus légère sur une vingtaine d'années précédemment. Et c'est pour ça que j'ai dit que les premiers travaux et toutes les choses que j'ai faites au niveau de la rue, avec cette obligatoire conscience des gens que je ne connais pas du tout et sur lesquels je ne vais jamais faire même l'effort d'aller dire « Tiens, qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Je veux dire, c'est absurde, je ne ferai jamais ça. Mais savoir que cette masse de personnes existe et comment elles circulent dans la ville, etc., m'avait énormément appris avant d'avoir pu mettre sur pied le projet du Palais Royal.
Alors, une question ici. Comme nous devons rendre l'amphithéâtre à 8 heures, on va aller très vite.
Le dessin de vos œuvres, de bandes différentes, rappelle les interférences de la physique optique. Est-ce que le sens de votre travail, c'est l'interférence ?
Ça, je ne connais pas du tout.
Bon, alors, une question. Là, monsieur, là, oui, si vous pouvez descendre là. On va prendre encore deux questions, hein, étant donné l'heure.
Oui.
Oui.
Il fonctionne. Voilà. Les bandes, le principe des bandes, est-ce que vous allez le conserver ? Si je me souviens bien, j'ai regardé des vieilles photos de Paris et les bandes blanches et rouges étaient la signalétique des auvents de boucher, je crois. Donc, ça soulignait les immeubles. Et est-ce que vous allez conserver ce principe qui est plutôt un principe de signalétique que un principe, à mon sens, de création d'une œuvre d'art ? C'est-à-dire que c'est pas... vous ne vous livrez pas, vous utilisez quelque chose pour le mettre en valeur, pour faire une mise en scène, un peu comme au théâtre, ce qui est très bien d'ailleurs.
Ben je n'ai pas parlé de ça parce qu'on n'est pas venu à en parler. D'une certaine façon, je pense qu'effectivement, entre les premières choses que je vous ai montrées et très très vite après, lorsque j'ai commencé à faire des choses dans la rue avec un autre matériau plus apte à faire des choses dans la rue, ce support rayé qui me servait pour quelque chose de très simple et très neutre s'est transformé quelque chose que j'appelle un outil visuel. Et cet outil visuel m'avait intéressé dès le début et avant qu'il devienne outil visuel, pour le fait même qu'il est, je dirais, absolument, a priori, n'a pas de sens. Si on parle du sens de l'art, celui-là n'a pas de sens. Et il est utilisé, mais il est utilisé, comme vous le disiez, soit il a été les tentures de boucherie chevaline pendant très longtemps, ou de boucherie tout court, d'ailleurs on ne le voit plus, mais il est toujours utilisé dans la signalisation, par exemple, si on doit faire attention, c'est blanc ou noir dans certains pays, blanc ou jaune, ou blanc ou rouge. Mais c'est certainement, et je ne réponds pas à votre question à l'envers, mais là, il y a certainement des phénomènes physiques qui font que, instinctivement, dans le monde entier, si on doit faire attention à quelque chose, les gens ont tendance à faire un truc binaire, blanc couleur, blanc couleur, blanc couleur. Et ça, certainement, que si c'est vrai, si ça existe, mais moi, je m'en fiche complètement, mais c'est pour ça que je ne peux pas vous répondre scientifiquement. Si c'est vrai, si ça existe forcément quand j'utilise. Et donc, c'est un signe, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est ce signe qui permet de relier des travaux différents et qui permet aussi de lire dans l'espace un seul et unique travail. Et c'est pour ça qu'il m'intéresse, parce qu'il ne dit rien d'autre que d'être un signe utilisé d'une certaine façon dans certains lieux. Et j'ajouterai seulement que ce signe, il est multiplié, mélangé avec d'autres signes aussi, qui peuvent être le miroir, la pierre, le bois, tout ce qu'on veut, qui font partie de l'œuvre et qui, eux, ont comme différence avec celui-ci qu'ils ne se répètent pas. Donc, c'est un signe qui, comme un signe, je dirais... Toujours le même exemple qui est un peu simple, mais si on peut lire, c'est parce qu'on reconnaît des signes. Donc, je dirais que même si ça, c'est un alphabet très restreint, quoique la couleur, c'est quand même des millions de couleurs, mais enfin, disons que le signe, au point de vue de sa forme, il est très restreint, il marche parce qu'il est toujours le même, et qu'en tant que signe étant toujours le même, on peut le repérer et le lire. Donc quelqu'un qui l'a déjà vu, c'est un avantage et un désavantage. Le désavantage, c'est celui qui trouve ça tout à fait inintéressant, qui ne va même pas essayer de regarder et qui est bloqué par ce signe. L'avantage, c'est celui qui est plus curieux, qui va dire... Qu'est-ce que ce signe, aujourd'hui mis dans tel et tel lieu, de telle et telle façon, va me faire penser ou qu'est-ce qu'il va relier ? Et dans ce qu'il va relier, il y a des choses qui sont, ce que je disais tout à l'heure avec le titre japonais, qui sont des choses empruntées, et il y a des choses qui sont, entre guillemets, créées et qui ne sont pas ce signe. Et c'est l'ensemble qui fait la pièce, disons.
Voilà, nous allons remercier Daniel Buren.